17h30, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est une très très bonne idée. Vous retrouvez tout de suite, petite consultation entre amis.
Petite consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris pour une émission spéciale sur le cerveau, en tout cas quand on en a, hein, docteur Marion, et dans lequel nous disséquerons l'actualité. On est en forme aujourd'hui. Comment agir face à un AVC? La piqûre de rappel sera consacrée aux premières opérations neurochirurgicales. Les mots du médecin sont le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Et l'expression rigolote, on va se marrer, c'est le score de Glasgow. Allez, à vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, on va en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec une toute petite brochette, mais belle.
C'est une mini mais brochette.
Belle, mini brochette. On n'est que deux cette semaine, docteur Marion.
Voilà, encore une fois, je crois que le mois de juin nous perd.
Voilà, alors bon, évidemment, à la réalisation de notre réalisateur préféré, quasiment unique,
Étienne,
qu'on salue, exactement. Salut Étienne. Et puis, on a quand même la voix chaude et suave de Radio Campus Paris. Bonsoir, docteur Marion.
Bonsoir, Loïc.
Alors justement, on parle du cerveau cette semaine, mais avant tout ça, on se fait un petit tour de l'actu santé.
Et donc justement, l'actu de la semaine, c'est la prouesse du docteur Emlich.
Et effectivement, il a pratiqué pour la première fois son geste qui sauve à 96 ans. Alors il a utilisé sa technique sur une pensionnaire de sa maison de retraite.
Mais c'est quoi cette manœuvre de Emlich?
Alors la méthode ou la manœuvre de Emlich, vous la connaissez j'espère, en tout cas on en avait largement parlé lors de l'émission sur les premiers secours. Donc je disais donc la manœuvre d'Emlich, avant d'être interrompu par moi-même, est donc utilisée en cas d'étouffement par ingestion d'un aliment qui passe dans la trachée et non dans l'œsophage, et ça provoque une obstruction des voies respiratoires, ce qui peut être évidemment mortel. Alors la méthode consiste à expulser le corps étranger par une compression effectuée sous le sternum en se plaçant derrière la personne qui est victime de cette fausse route, et on va l'entourer avec ses bras. J'ai envie de vous entourer, docteur Marion. Venez là. Allez, je vous fais la technique, n'ayez pas peur.
Non, vous allez me faire quoi?
Alors, vous allez faire, c'était ça, vous allez faire mine de vous étouffer. Donc vous portez vos mains à votre gorge, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus... Non, vous pouvez même plus crier. D'ailleurs, ça fait tellement du bien quand vous pouvez plus parler, docteur Marion. Il n'y a aucun son qui sort et on en conclut que donc vous vous étouffez. Alors premièrement, je vais vous poser une question qui est, docteur Marion, est-ce que vous vous étouffez?
Et alors, vous foutez de ma gueule, je ne peux pas parler,
a priori. Vous ne pouvez pas parler. Donc je vous fais immédiatement 5 claques dans le dos. Donc je vous laisse dans la position où vous vous trouvez. Je vais me placer sur le côté, légèrement en arrière de vous. Je vais soutenir le thorax, votre thorax avec une main. Je vais vous pencher vers l'avant pour que le corps étranger dégagé puisse sortir de la bouche plutôt que retourner dans les voies aériennes. Et je vais vous donner 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les deux omoplates, avec le talon de mon autre main ouverte, tant que la désobstruction n'est pas obtenue. Attention, on y va, docteur Marion.
Aïe!
Mais là, vous pouvez pas parler. Et donc, je fais ça jusqu'à 5 fois. Non, alors, le but, revenons un peu sérieusement, le but, c'est de provoquer un réflexe de toux chez le patient, et c'est en toussant que le patient pourra recracher le corps étranger. Et si malheureusement ça ne marche pas, eh bien, je passerai à la fameuse manœuvre d'Emlich. Donc, cette fois, je me place derrière vous, contre votre dos. Je place mes bras sous les vôtres, de part et d'autre, de la partie supérieure de votre abdomen. Je vous penche en avant une nouvelle fois pour que le corps étranger sorte par la bouche. Je mets mon poing sur la partie supérieure de votre abdomen, au creux de l'estomac, au-dessus du nombril et en dessous du sternum. Je place mon autre main sur la première, les avant-bras n'appuient pas sur les côtes. Et là, accrochez-vous, docteur Marion, voilà, j'y vais, je tire franchement, donc une pression vers l'arrière et vers le haut, j'y vais. Et voilà, ça y est, c'est fait, donc j'effectue 1 à 5 compressions tant que la désobstruction n'est pas obtenue. Alors là, l'effet est un petit peu différent, hein. On va rechercher un effet piston en appuyant sur le diaphragme, ce qui aura pour résultat de comprimer l'air contenu dans les poumons.
Alors merci pour cette démonstration, je sais plus où je suis, enfin bref, en tout cas, on va revenir un petit peu sur le docteur Emlich justement.
Alors justement, il a donné son nom à ce geste qui sauve, mais ne l'avait encore pas pratiqué lui-même, hein. Le docteur Henry Emlich a pratiqué sa technique de secourisme pour la première fois de sa vie à 96 ans. Il est intervenu dans la maison de retraite du Cincinnati aux États-Unis, où il passe ses vieux jours pour sauver une pensionnaire âgée de 87 ans qui s'étouffait en mangeant un hamburger. Alors on mange des hamburgers en maison de retraite aux États-Unis, c'est plutôt sympa. sympa. Et justement, on retrouve le docteur Emlich. Alors, vous l'aurez traduit vous-même, docteur Marion, je suis sûr. Avoir sauvé cette fille m'a fait me sentir formidablement bien, dit-il. Je savais que cela fonctionnait partout dans le monde, j'ai juste ressenti de la satisfaction.
En tout cas, c'est une actu qui ne manque pas d'air.
Merci, docteur Marion. Et on enchaîne tout de suite bien avec l'astuce santé bonheur. Retour dans cette thématique spéciale cerveau, on va parler quasiment pendant 30 minutes sans discontinuer, exactement que du cerveau. Et retour justement avec l'astuce santé bonheur, avec comment reconnaître et agir face à un AVC.
Voilà, et du coup je vais vous la poser à vous docteur Loïc, puisque le docteur Guillaume est absent aujourd'hui. Donc déjà, qu'est-ce qu'un AVC ?
Alors un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral et ça survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue, soit par un vaisseau sanguin bouché, ce qu'on appelle l'AVC ischémique, ça représente à peu près grosso modo 80% des AVC, soit par l'éclatement d'un vaisseau sanguin qui provoque une hémorragie ou l'AVC hémorragique, si vous êtes bon au calcul, ça représente 20% des AVC. Ouais. Et vous êtes fort. Donc l'arrêt du flux sanguin vers les différentes parties du cerveau prive ces dernières de leur apport vital en oxygène, ce qui cause leur dysfonctionnement, puis malheureusement leur mort en quelques minutes.
Ok, donc en fait c'est un peu grave.
Ouais, alors l'AVC c'est la première cause de handicap physique chez l'adulte et l'une des principales causes de mortalité. Chaque année en France, 150 000 personnes sont atteintes d'un AVC, soit une personne toutes les 4 minutes. Et les AVC sont souvent responsables de séquelles lourdes, l'accident pouvant toucher de grandes fonctions neurologiques telles que la motricité, la sensibilité, le langage ou la vision.
Ok, alors du coup, quels sont les signes en fait de l'AVC ?
Bon, alors vous l'aurez compris, les signes dépendent de la zone du cerveau qui est atteinte et de l'étendue de la lésion. En gros, les signes les plus fréquents d'un AVC sont un mal de tête sévère et soudain n'ayant aucune cause connue, donc ce ne sont pas des migraines, hein, une perte de force ou un engourdissement, c'est dur à dire, au niveau des membres supérieurs, un problème de vision avec un ou deux yeux, des troubles de la parole, un étourdissement ou des troubles de l'équilibre, de la coordination, de la marche. Et justement, il y a un spot complètement génial sur l'AVC.
Je trouve génial. Soudain Laurent est tout pâle, son visage est déformé. Que lui est-il donc arrivé? Et si c'était un AVC?
C'est génial.
C'est génial. Alors, on a vu un peu, on la connaît par cœur maintenant.
Exactement. On a vu un peu les signes,
oui,
grâce à ce spot.
Tout à fait. On vous invite à aller le regarder en entier. Revenons donc un petit peu sur les causes de l'AVC.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui font courir le risque d'un accident vasculaire cérébral. Certaines maladies du cœur, le diabète, le tabagisme, un taux élevé de cholestérol dans le sang, l'alcoolisme. Mais cependant, c'est l'hypertension artérielle qui est le principal facteur de risque de l'AVC.
D'accord. Et les, du coup, ces risques ?
Alors les risques, justement, c'est lorsqu'un vaisseau se rompt ou se bouche, une partie du cerveau n'est plus alimentée en sang et donc en oxygène. Et les cellules nerveuses meurent. Et si la circulation sanguine n'est pas rétablie rapidement, la zone irriguée par le vaisseau défaillant sera irrémédiablement détruite.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, le sauveteur doit reconnaître les signes d'un AVC et mettre la victime au repos, se renseigner sur son état de santé et prévenir les secours publics, en gros, le SAMU, le centre 15.
Ok, donc concrètement...
Alors, une victime consciente présente les signes d'un AVC. Donc, on reconnaît les signes de l'AVC en écoutant les plaintes de la victime. Et on va pratiquer le test qu'on appelle bouche-bras-parole. Alors, bouche-bras-parole, qu'est-ce que c'est ?
Le BBP.
Exactement. La bouche, eh bien, on demande à la victime de montrer ses dents, d'observer sa bouche. Et une bouche de travers ou la commissure des lèvres qui pend vers le bas sont les signes d'un AVC. On peut également demander à la personne de gonfler, par exemple, ses joues. Bah, comme vous le faites, bah, j'ai l'impression, docteur Marin, en tout cas, que vous ne faites pas un AVC. Deuxième chose sur le bras. Donc, on va demander à la victime de fermer les yeux et de placer les deux bras à l'horizontale vers l'avant et de tourner les paumes vers le haut. Et un bras qui va pendre ou qui fait des mouvements incontrôlés sont les signes d'un AVC.
D'accord.
Et enfin, le dernier test, c'est le test de la parole.
Hein,
je vois que vous suivez, docteur Marion.
Non, mais tout à fait.
On demande à la victime de prononcer une phrase simple. Des difficultés d'élocution ou des paroles confuses sont également les signes d'un AVC. Donc, on fait ce test-là. Ensuite, on met la victime au repos en l'allongeant en position horizontale. Et on se renseigne évidemment sur l'état de santé de la victime. Donc, depuis combien de temps dure l'AVC, s'il s'agit de la première fois, si la personne a été gravement hospitalisée ou malade, si elle a des traitements. Et on prévient les secours publics, le centre 15. Et on surveille les signes d'aggravation, notamment la perte de connaissance, et on rassure la victime, et en cas d'aggravation, évidemment, on rappelle le centre 15, le SAMU. Voilà, je suis sûr que vous voulez un petit récap en chanson.
Moi j'adore, donc
allez,
on y va.
Allez, petit récap en chanson.
Le temps est compté, il faut vite vérifier. Vois l'expression de son visage, est-il déformé? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Ses membres sont-ils réactifs? Le temps est compté, il faut vite vérifier. Ses paroles ont-elles du sens?
Le temps est compté. Alors vous l'aurez compris, hein, le temps... Ouais, c'est le centre 15, il faut appeler. On retrouve hein, le test bouche, oui. Bras, parole, hein, qu'on retrouve.
Bien, propagande par spot. La chanson, c'est super.
Exactement. Et donc, un mot d'ordre, la rapidité. On a 3 heures, notamment sur les AVC ischémiques, pour, entre guillemets, faire sauter le caillot. C'est ce qu'on appelle la thrombolyse. Et 3 heures, c'est très, très court en médecine. Hein, le réflexe, si vous avez un doute, une personne présente des signes qui pourraient s'apparenter à un AVC. Le seul réflexe que vous devez avoir, c'est l'appel au centre 15. Et attention, une chose importante, il n'y a pas forcément de douleur associée à l'AVC, et donc souvent les personnes pensent que ce n'est pas grave, disent oh bah c'est pas très grave, je suis un peu engourdi au niveau du bras,
j'ai pas mal.
Erreur. Voilà, une prise en charge précoce, ça permet vraiment d'éviter les complications et de limiter les séquelles motrices et cognitives. Voilà pour cette petite
astuce santé bonheur
sur les AVC.
On réécoutera le spot.
Et le spot, vous pouvez le retrouver évidemment, ça s'appelle le spot sensibilisation sur les AVC. Et on enchaîne suite avec notre piqûre de rappel.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux ni de Léo d'ailleurs.
Hein. Non, du
c'est,
coup.
Exactement,
du coup,
c'est celle chaude et profonde.
Je peux la faire un petit peu comme ça.
Exactement, c'est celle chaude et suave cette fois, voilà, du docteur Marion. Et docteur Marion, vous nous parlez cette semaine des premières opérations neurochirurgicales, en tout cas des premières opérations cérébrales.
Tout à fait, puisqu'on n'a pas tous les éléments non plus aujourd'hui. Donc je demande d'abord à nos auditeurs d'être très indulgents, car je vais essayer de faire presque aussi bien que le docteur Léo qui nous a abandonnés aujourd'hui. Petit message.
Voilà. Hashtag Léo, où es-tu?
Hashtag Léo, on t'a perdu. Les premières opérations cérébrales, en fait, remontent à très longtemps. On a tendance tout de suite à penser qu'Hippocrate a tout fait là-dedans, mais c'est faux.
Attaquez Hippocrate?
Oui, j'attaque Hippocrate. Ah là là, bah, écoutez, il va se retourner dans la poussière.
Exactement.
Je sais pas. Bref, en tout cas, en réalité, on retrouve des traces des premières trépanations à l'âge néolithique. Évidemment, alors, elles étaient faites avec des moyens primitifs pour peu que le silex soit bien aiguisé. Voilà. En tout cas, on dit aujourd'hui encore que des indigènes de certaines îles d'Océanie sont capables, de nos jours encore, de découper une rondelle crânienne en 10 minutes avec un silex.
C'est sympa ça.
C'est
je veux dire
génial.
Quoi? Je vais prendre 2 tranches de jambon et vous me mettrez une petite rondelle crânienne, s'il vous plaît.
Voilà.
Ah bah 10 minutes et je vous la découpe.
C'est génial. Enfin bref. Et on est d'ailleurs certain qu'à l'époque, des patients qui avaient subi une trépanation ont vécu encore plusieurs années après en observant les crânes ressoudés.
Mais alors Hippocrate là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans?
Alors Hippocrate, il arrive après, hein, il est là, il arrive. Voilà, Hippocrate donc qui est très connu pour sa philosophie tout d'abord, mais qui est avant tout un médecin reconnu. Et il est le père génial de la médecine.
Mais nous, c'est hashtag Hippocrate ma passion, quoi.
Hashtag Hippo. Bref. Et oui, reconnu. Donc il est reconnu car il savait déjà à l'époque qu'une fracture du crâne ne requiert pas obligatoirement la fameuse trépanation. C'est-à-dire que seules, pour lui, les lésions du contenu, c'est-à-dire de l'encéphale, sont à retenir. Et peu importe si le contenant, la boîte, entre guillemets, est cassé.
Il était pas bête,
Hippocrate. C'était ça, son petit truc. Et deuxième petit truc qu'il avait aussi, il savait aussi ouvrir le crâne avec un trépan fort ingénieux, pas tellement d'ailleurs différent du nôtre, enfin du vôtre, docteur Loïc, du mien, et qui comportait un collet de sécurité permettant de ne pas entamer le cerveau une fois l'os franchi.
C'est quand même assez technique. Et donc là, on est bien longtemps avant Jésus-Christ.
Et là, on est longtemps.
Longtemps avant.
Pas.
Voilà.
Jadis. Il avait observé d'ailleurs que l'hémisphère cérébral d'un côté répondait aux membres de l'autre côté. C'est lui qui avait observé ça. Et il disait donc qu'il fallait faire porter à chaque fois qu'on faisait une trépanation du côté opposé aux symptômes. Voilà. Et puis bon, si par malheur, le fragment métallique d'une arme était resté inclus dans la pulpe cérébrale, il conseillait de l'en retirer et avec lui, enlever le sang et la matière cérébrale infectée.
Pas bête. Donc
tout
déjà,
ça,
du coup,
il y avait déjà des bases assez...
déjà les premières évacuations des hématomes intracérébraux... très très fort, ou des extraduraux, donc en voilà. Tout cas, du beau boulot. Hippo.
Exactement, du beau boulot, et donc on ne s'étonnera pas que 4 siècles avant Jésus-Christ, il était en fait le grand ancêtre de la neurochirurgie.
Salut Hippo.
Salut Hippo.
Un autre mec génial qu'on va écouter sur Radio Campus, c'est François Pérus, alors qu'il n'était pas... c'est les 2 minutes du peuple sur justement le cerveau.
Le cerveau, élément essentiel du cœur humain, est constitué de 7 départements. L'émotivité, sujet aussi sensible qu'incontrôlable, est supervisé par la raison, le plus posé de tous. Le jugement évite quant à lui de tirer des conclusions trop hâtives. Renseignement et curiosité collectent des informations pour les décortiquer. Ces informations sont classées par la mémoire, toujours partisan du moindre effort. Porte-parole de la troupe, corde vocale n'hésite pas à donner de la voix. Enfin, chef d'orchestre de cette organisation, centrale cervicale, gère tant bien que mal tous ses compères. Imaginez maintenant l'ébullition produite par une sombre révélation.
Claude, il faudrait que je te parle.
Centrale cervicale.
Oui, ici c'est l'oreille, elle dit faudrait que je te parle.
Sur quel ton?
Un ton nerveux.
Bon, ça y est, corde vocale?
Oui.
Réponds, mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave.
Mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave.
Le cœur, tu me fais un petit rythme accéléré, s'il te plaît.
Je t'ai trompé.
Elle dit je t'ai trompé.
Bon, elle le trompait.
La trompette, on t'a rien demandé.
Bon, le cœur?
Ouais.
Joue à l'envers maintenant. Merci.
Oh, j'ai le cœur à l'envers.
Allô, centrale cervicale.
Ici le département de renseignement et de curiosité.
Ouais.
On voudrait savoir avec qui elle a fait ça, la fille.
Attends une minute. Centrale.
C'est le département émotionnel.
Oh merde.
Je sais pas si tu tiens, moi, de savoir avec qui elle a fait ça, la fille.
Bon, attends un peu. Centrale.
Oui, ici c'est la raison.
Oui.
N'est-il pas mieux de le savoir immédiatement plutôt que de l'apprendre plus tard dans des circonstances plus brusques?
D'accord, c'est vendu.
Ouais.
Ça va pour toi, l'émotivité?
Arrête-toi, je vous fais un cœur!
Corde vocale?
Oui.
Je peux savoir avec qui?
Je peux savoir avec qui?
Guy Banville.
Guy Banville.
Bon, Guy Banville.
Mémoire.
Ouais, Guy Banville, t'as ça dans tes registres?
Attends un peu. Oui.
Guy Banville?
On l'a vu 3 fois, il travaille dans une discothèque.
Qu'est-ce qu'on en pense de ce type-là?
Ça, c'est pas mon boulot, t'appelles au jugement.
Putain, on se croirait dans les bureaux du gouvernement.
Jugement?
Oui, tu vois la photo dans la mémoire.
Ouais.
Quelle est notre opinion de ce qu'on a?
Neutre, sympathique, aucune animosité.
C'est un trou du cul!
L'émotivité parle plus fort que le jugement, c'est donc l'émotivité qui a les cordes vocales, vas-y.
T'as couché avec ce naze?
Bon, le système nerveux maintenant.
Passe-moi le micro des cordes vocales, je vais lui parler à cette gonzesse!
Attends ton tour, l'émotivité là.
Attendez, ne nous emportons pas!
Tiens, écoute la raison là.
Donne-moi ce micro, j'ai dit!
Non!
Un, deux!
Donne-moi ça!
Lâche-moi!
Dis quelque chose.
Un, deux, donne-moi ça, lâche-moi, pif, paf, pif.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
1, 2, 1, 2, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, en tout cas petite consultation entre amis, c'était eh bien les 2 minutes du peuple, un petit hashtag François Pérus.
Et qui nous font beaucoup penser d'ailleurs à Vice Versa, le film d'animation dans
exactement,
le cerveau,
vous
en fait, dans le corps.
Sur le YouTube, en tout cas vous êtes sur Radio Campus Paris, le 93.9, et justement allons voir eh bien du côté de nos infos qu'il faut. Alors justement, coin de neuf, docteur Marion, des journées mondiales à non plus finir, et notamment lundi.
Tout à fait. Lundi, effectivement, la journée mondiale de la maladie de Verneuil.
De Verneuil. Alors, c'est quoi cette maladie de Verneuil?
Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que, à propos de cette maladie, c'est qu'elle est totalement inconnue du grand public. Elle fait partie de ces trop nombreuses maladies chroniques pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement réel. Voilà. Et pourtant, cette maladie est très invalidante pour les personnes qui en sont atteintes. La journée mondiale, d'ailleurs, a été initiée en 2012 par l'AFRH, Association française pour la recherche sur l'hydrosadénite. Voilà, l'autre nom de la maladie de Verneuil. Elle rencontre pour le moment, d'ailleurs, un écho relativement faible auprès des médias et du public. Mais, comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Alors, très bien, vous en parlez, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Alors, en deux mots, docteur Magnon, c'est quoi cette maladie de Verneuil?
Alors, c'est une maladie cutanée disgracieuse. Elle se manifeste le plus souvent par des plaques, en relief douloureuses et suppurantes sur la peau.
Une sorte de pustule un peu, ou de kyste.
Voilà,
très
c'est
sympa.
Ça. Voilà, et elle est difficilement, d'ailleurs c'est assez étonnant, mais malgré que ça se voit, elle est difficilement détectée par les médecins généralistes qui connaissent pas forcément du coup
assez bien cette maladie. Ça peut être associé en fait à un syndrome acnéique, voilà, assez
exactement,
basique.
Exactement.
Alors un site à visiter.
Voilà, www.afrh.fr.
Et cette semaine, on a un forum à ne pas rater qui aura lieu mardi et mercredi, donc le 7 et le 8 juin, docteur Marion.
Tout à fait, oui, docteur Loïc, il s'agit des rencontres de la santé publique qui sont organisées par Santé publique France, qui, je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs, docteur Loïc, réunit maintenant les deux entités qui ont fusionné, c'est-à-dire l'INPES et l'INVS, donc l'Institut National de Veille Sanitaire. Donc c'est eux qui organisent tout ça, bref c'est un forum qui est ouvert à tous, les inscriptions sont closes sur le site internet mais il vous est possible d'y participer en vous présentant à 8h15 mardi de bon matin au centre universitaire des Saints-Pères. Pour rappel, donc durant ces deux jours, c'est ouvert à tout le public, il y aura des présentations et des ateliers autour de plusieurs thématiques d'actualité de la santé comme par exemple
le virus Zika.
Virus Zika, je ne trouvais plus le mot, merci docteur Loïc, et sur la réduction par exemple des inégalités sociales face au tabac. Face au tabagisme, voilà, sous forme d'atelier. Donc c'est un moment pour partager et chercher des pistes pour l'avenir de la santé sur le territoire français.
Un site internet.
Tout à fait, rencontre au pluriel santépubliquefrance.fr, tout attaché.
C'est bien ça, ils mettent le maximum
ouais,
de mots.
On va mettre, voilà, c'est ça.
Merci en tout cas pour ces infos qu'il faut, docteur Marion, et on enchaîne tout de suite avec le mot du médecin.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Donc retour dans cette thématique, le cerveau, quel bel animal, hein, voilà, et hashtag faute de français. Et donc aujourd'hui, docteur Marion, on va parler du cerveau.
Oui, 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 docteur Loïc, et même de deux cerveaux.
Comment ça, de deux cerveaux?
Quoi? Deux cerveaux? oui, bah d'ailleurs, oui, vous faites assez bien l'étonner. Enfin bon, chers auditeurs, vous qui n'êtes pas médecin peut-être, je vais vous parler effectivement des deux cerveaux que nous possédons. On parle de deux cerveaux différents.
Alors docteur Marion, vous allez nous expliquer tout ça quand même.
Voilà, donc pour faire assez simple, parce que j'ai pas trop envie de vous compliquer la vie, donc il y a le cerveau reptilien, c'est ce qu'on appelle plus communément le tronc cérébral, c'est un petit peu notre système nerveux, voilà. C'est le cerveau en fait qui réagit avec l'instinct animal en fonction en fait des besoins fondamentaux qu'on peut avoir en tant qu'humain, et c'est lui qui assure la sauvegarde en fait de l'espèce, c'est ce qu'on dit.
Et alors, du coup, on parle également du cerveau limbique. Alors, le cerveau limbique, il sert à quoi ?
Alors, lui, le cerveau limbique, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il s'agit du centre physiologique qui gère plutôt les aspects émotions.
Alors d'ailleurs, il y a des lois physiologiques qui sont attribuées au cerveau limbique, si je ne m'abuse, docteur Marion.
Tout à fait. On dit effectivement, par exemple, que le système limbique est imperméable à toute logique. Ça, c'est une base. Et le système limbique enregistre d'abord les actions vécues qui deviendront réflexions ensuite. Le cerveau ne peut pas, du coup, résoudre un problème que s'il s'expérimente... Enfin...
Que s'il expérimente de nouvelles solutions, c'est ça ?
De nouvelles solutions, exactement. Et encore, la troisième chose qu'on dit souvent, c'est que le cerveau limbique stocke tous les souvenirs en jouant un rôle essentiel dans la mémoire à long terme. C'est lui qui gère ça.
Merci, on n'a rien compris, docteur Marion.
Voilà. On n'a rien compris, on ne sait pas.
En tout cas, le cerveau reptilien et
le cerveau limbique.
En tout cas,
c'était le mot du jour.
Exactement, peut-être que ce soit très limpide ou limbique.
Exactement, c'est pas très limbique.
C'est pas très limbique. Merci, du coup, en tout cas, docteur Marion, pour cette esquisse d'explication, peut-on dire. Allez, et on enchaîne tout de suite avec l'expression rigolote.
O, D, I, maintenant L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Alors, cette semaine, l'expression rigolote, c'est le score de Glasgow.
Ah, effectivement, cette semaine, fan d'urgence que vous êtes, vous allez enfin comprendre ce que signifie le fameux...
Score de Glasgow à 7.
L'échelle de Glasgow, ou score de Glasgow, qui est un outil utilisé par les médecins pour évaluer l'état de conscience d'un patient, en particulier après un traumatisme crânien. Il permet aussi de grader le niveau de gravité d'un coma. En gros, c'est une série de tests selon plusieurs critères. Et justement, réécoutons ce petit extrait de notre série préférée.
John, est-ce que tu m'entends ?
Voix aérienne libre.
John, ouvre les yeux !
Pas de réponse aux ordres. Score de Glasgow à 7.
Alors vous l'avez entendu, trois critères sont testés et notés, ce qui font les choses bien quand même dans l'urgence. La réponse verbale, la réponse motrice et l'ouverture des yeux. Alors chaque critère est noté de 1 à 5. La réponse verbale, si elle est orientée, on va mettre 5 points, confuse 4 points, inappropriée 3 points, incompréhensible 2 points et absente 1 point. Quand je regarde votre regard, j'ai l'impression que ma réponse verbale est à 2 points.
Exactement, on comprend rien.
L'ouverture des yeux, ensuite je vais essayer de coter l'ouverture des yeux, je vais demander au patient d'ouvrir les yeux. ça se fait de façon spontanée 4 points, au bruit 3 points, à la douleur 2 points et absente 1 point. Alors je vois ouvrir un peu des yeux, la victime n'exécute pas d'action spontanée ni au bruit ni au toucher, on teste alors sa réaction à la douleur. Je sais que ça fait du bien et c'est toujours très marrant à faire. Alors l'idée est quand même d'éviter de faire des marques ou des séquelles. Hein. Le bon plan par exemple c'est d'exercer une pression avec un objet dur sur un ongle ou d'appuyer énergiquement notre poing sur le milieu du sternum ou encore d'exercer une pression sous l'angle de la mâchoire inférieure ou derrière les oreilles. Alors, d'ailleurs, vous préférez vous laquelle?
Moi, je m'éclate beaucoup avec le derrière de l'oreille.
Ah, derrière l'oreille, ouais. Ça marche bien. Hein. Ouais, et alors, l'ongle aussi, quand vous écrasez l'ongle avec un stylo, par exemple, c'est assez radical. Bon, alors, les méthodes de pincement, comme il faut quand même le dire, ça a été pratiqué. Bon, on ne l'a jamais fait, mais maintenant, c'est quand même un peu banni. Alors, revenons quand même
des bleus, quoi.
À nos trois critères. Le troisième critère, c'est la réponse motrice. Donc, il obéit 6 points, c'est adapté 5 points, orienté 4 points, flexion réflexe 3 points, extension réflexe 2 points, absente 1 point. Donc en gros, en neurologie, vous allez voir, on a tout un vocabulaire spécifique qui est ô combien imagé pour parler de la réponse motrice. On dit que le patient enroule lorsqu'il a une réponse à 2, c'est-à-dire quand il écarte les bras, et on dit qu'il fait de la mobilette pour une réponse à 3, c'est-à-dire c'est le système de la flexion. Bon, généralement, c'est pas très bon signe, hein. Ça signifie quand même qu'il y a une souffrance du cortex, voire du tronc cérébral. Alors vous faites le total de ces 3 notes obtenues, réponse verbale, réponse motrice et ouverture des yeux, et ça vous donne une note finale comprise entre 1 et 15. C'est le fameux score de Glasgow. Vous l'avez entendu dans l'extrait tout à l'heure, le score était à 7. Bon, en gros, 15 correspond à une conscience normale, un score en dessous de 8, à un coma. Là, je vous fais un petit résumé à la hache. Hein. Grosso modo, de 3 à 8, traumatisme crânien grave. Score de Glasgow de 9 à 12, traumatisme crânien modéré. Et score de Glasgow entre 13 et 15, traumatisme crânien bénin. Alors, ce score de Glasgow est l'un des outils principaux qui permettent aux médecins de déterminer la prise en charge, même si d'autres examens médicaux, en particulier d'imagerie, peuvent être nécessaires. Vous pourrez frimer un peu sur le score de Glasgow, Dr Marion.
Complètement.
Vous avez tout compris? Vous êtes à 14.
Pourquoi vous avez un test à me faire?
Je sens que vous êtes à 14 sur 15. Je sens que vous n'êtes pas vraiment en état aujourd'hui.
Aujourd'hui, pas complètement. Je suis pas en coma parce que j'arrive à parler et tout ça.
Exactement.
Là,
bon, on peut dire un petit 14, un petit 13-14.
Un
petit peu compliqué. Allez, avant de se quitter, eh bien, on a le temps de faire quelques brefs de salle d'attente.
Ouais.
Alors, on part, je sais pas où d'ailleurs, où est-ce qu'on part?
Etienne, tu nous rejoins.
On part en Chine. Etienne Notrial nous rejoint. Salut, Etienne. Et alors, c'est une belle histoire, la belle histoire du jour. Sans jambes, après un accident, elle réalise son rêve. Quel est-il?
Traverser l'Atlantique.
Absolument
sur un kayak,
pas. Absolument pas. Pas du tout, pas du tout. C'est comme en lien un petit peu avec nous, avec la médecine. Alors, elle a été renversée par un camion à l'âge de 4 ans. Li Yuong avait perdu ses deux jambes et depuis la jeune femme de la région de Chongqing, c'est en Chine.
Ah, elle s'est fait greffer des jambes plus grandes.
Pas du tout.
Elle est hyper contente.
Elle a réalisé son rêve malgré son handicap.
C'est quoi?
C'est un loisir ou?
C'est pas un loisir. Enfin, en tout cas, on le considère pas vraiment comme un loisir.
Son rêve
qu'elle pouvait. Alors, quand elle était petite, quand elle était gamine, elle avait un rêve. Elle disait je veux vraiment aider les autres, être utile.
Bah, elle est devenue, clown.
Pas infirmière, elle est devenue.
Aide soignante. Ah, médecin!
Médecin, exactement, médecin de campagne.
C'est beau.
Voilà, c'est beau. Alors, c'est une belle histoire qui est racontée. Hein. Elle est même retournée, donc elle a été diplômée d'université en 2000. Et elle est revenue dans son village natal un an après pour devenir la nouvelle praticienne de la région. Voilà, plutôt sympa. Hein.
C'est bien.
C'est bien. Allez, une petite dernière. Fumer tue. Qu'est-ce que ça tue? Ça tue du matériel.
Fumer-tu du matériel?
Ouais, exactement.
Ça crée un dépôt, c'est une histoire de dépôt.
Surtout, par exemple, dans votre salon.
Ah, c'est les tapisseries.
Non, c'est pas les tapisseries. Alors, ça abîme effectivement les tapisseries.
Oui, non, mais c'est pas ça.
C'est un matériel, c'est quelque chose que vous regardez.
Ah, la télé?
Ouais, alors ça tue. Alors, pas exactement la télé, mais ça tue.
Ah, l'écran?
Abîme en fait la télévision. Et quand vous allez chez Darty et vous dire ah, ma télé marche plus, on vous dit ça tue l'extension de garantie de votre téléviseur.
Comment
ça? C'est-à-dire, en fait, du coup, vous allez.
Je
suis désolé de vous le dire, mais un couple britannique s'est vu refuser la réparation sous garantie de leur téléviseur au motif que la cause du dysfonctionnement serait liée au tabagisme de ses propriétaires. Et grosso modo, le service après-vente dit mais c'est très dangereux parce que c'est plein de fumée de dépôts toxiques et donc on refuse de réparer votre appareil. Apple avait également réagi de la même façon pour la réparation de certains de ses appareils. Sachez-le, donc fumer tue.
Merci.
Vous tue, mais tue également l'extension de garantie de votre téléviseur et de vos appareils. y aller, c'est tout juste. C'est déjà la fin de Radio Campus. Enfin, pas la fin de Radio Campus Paris, mais la fin de Petite Consultation entre amis. Rappelons que vous pouvez retrouver l'émission sur le site www.radiocampusparis.org. Vous pouvez aller sur notre site internet, sur notre page Facebook. Et bien, la semaine prochaine, on parlera de plein de choses. Je sais plus de quoi on parle la semaine prochaine, mais je ne sais plus. Je crois qu'on parle du poil.
Ou de sexe.
Ou de sexe, on sait pas en tout cas. Mais en tout cas, juste après, nous vous retrouvez l'œil à l'écoute. Et puis, Tropical Club à 19h. Ne lâchez pas l'écoute de Radio Campus Paris.
On vous remercie.
On vous embrasse. Bisous. Ciao.
Soirée.
À la semaine prochaine.
Bisous.
Il est 18h sur Radio Campus Paris.